Mathématicien, anarchiste russe d'origine tatare, ce qui est sans doute aussi un défaut par là-bas, âgé de 30 ans. Il est diplômé de la faculté de mécanique et des mathématiques de l'université d'État de Moscou. C'est un mathématicien brillant, lauréat d'une Olympiade russe. Et donc, il devait, sa peine, la peine à laquelle il avait été condamné une première fois devait arriver à échéance. Et donc, pour éviter qu'il ne puisse sortir, on est en train de lui fabriquer un nouveau délit et un nouveau procès à venir pour être sûr qu'il reste par là-bas de nombreuses années suivantes. Il y a donc mobilisation autour de ce jeune homme dont on ne connaît pas beaucoup le nom. Azat Miftakov. Donc voilà, il y a à se mobiliser aussi de ce côté-là. Petite information sur les animations sans transition, comme on dit dans les bonnes radios, parce que là, il peut pas y en avoir, mais sur les animations à venir de la librairie Publico. Librairie Publico 145 rue Amelot. Et ça sera la grande fête de rentrée Publico en fête, grande braderie de livres et de disques de 1 à 5 euros ce samedi 9 et dimanche 10 septembre de 11h à 19h pour les 2 jours. Il y a aussi des concerts samedi 9 septembre à 14h, No Rep, groupe de punk qui joueront exceptionnellement en acoustique leur composition revendicatrice ainsi que des reprises. Que vous reconnaîtrez sûrement, nous dit-on. Samedi 9, toujours à 16h, Paco Muñoz, un flamenco de Almería en Paris, concert donc de flamenco avec Paco Muñoz. Et puis dimanche 10 septembre, pour ce qui est des concerts, à 14h, ce sera les Pétroleuses, musiciennes et chanteuses, et qui évidemment interpréteront les chants de la commune. Voilà, donc c'était les animations de Publico en fête. C'est samedi et dimanche prochain de 11h à 19h. Un grand merci à Victor
Denage
d'avoir été parmi nous et à Serge. Et à bientôt.
Et on va se quitter avec un Opasaran qui nous vient du Nicaragua et qui a été apporté par notre invité. Au revoir.
Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Santino. ¡Vámonos!
Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro,
¡que se oiga!
No, no pasará.
¡Más fuerte, compañeros!
No pasará. Los venceremos, amor, no pasará.
Si mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará.
Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro.
hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
No pasarán, los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará.
¡Luchamos para vencer!
¡No!
Quasiment dans les mêmes parages, et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce, y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas, pour que rien ne se perde, mangerai on sait quoi ces gars-là, ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur jugé la bonne terre perdue. À chaque labour, ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait demain? Sont gros aussi leurs arpents d'un peu de glèbe toute neuve, mais ton chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole, chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? Chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe. Je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où ce que mes allumettes elles sont? Dans le fond de ma panetière. Et je ferai bien reculer vos moissons, oh les mange-terre. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grande ma main. Je pourrais bien l'élargir demain.
Radio Libertaire, 89,4 MHz, l'émission Les Mangeux de Terre commence en ce premier lundi du mois, lundi 4 septembre donc, avec un tour d'horizon de l'actualité, des questions environnementales, des questions sociales évidemment, en lien avec l'environnement. Et puis pour commencer, une sorte de patchwork, je vous propose de revenir avec Novetic sur l'actualité de ce début août, à savoir le fait que le Conseil d'État a suspendu la dissolution du collectif Soulèvement de la Terre, qui a donc remporté une bataille judiciaire, comme l'indique Novetic, puisque le Conseil d'État a annoncé le 11 août suspendre la dissolution en attendant la décision définitive qui sera rendue à l'automne. C'est un soulagement pour les associations de défense de l'environnement qui étaient accusées de violence et d'éco-terrorisme, fermez les guillemets, par le ministre de l'Intérieur. Donc effectivement, le juge des référés du Conseil d'État a suspendu la dissolution du collectif qui avait été décrété en Conseil des ministres le 21 juin. La plus haute juridiction administrative estime en effet qu'il existe des doutes sérieux sur la légalité du décret et avance deux raisons. La première porte sur l'atteinte à la liberté d'association. Pour rappel, ce mouvement, donc les Soulèvements de la Terre, regroupe plusieurs associations dont ATTAC, Extinction Rébellion ou la Confédération Paysanne. À l'annonce de sa dissolution en juin, le collectif des Soulèvements de la Terre a d'ailleurs reçu le soutien de plusieurs personnalités, parmi lesquelles la coprésidente du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, sortie donc de sa réserve, le réalisateur Cyril Dion, la journaliste et essayiste Naomi Klein. Plusieurs manifestations ont été organisées avec un slogan « On ne dissout pas un mouvement ». Au-delà de la liberté d'association, le Conseil d'État a motivé sa décision par l'absence de pièces permettant de considérer que le collectif cautionne d'une quelconque façon des agissements violents envers des personnes. Et de poursuivre, donc toujours dans l'arrêt, hein, les actions promues par les Soulèvements de la Terre ayant conduit à des atteintes à des biens qui se sont inscrites dans les prises de position de ce collectif en faveur d'initiatives de désobéissance civile dont ils revendiquent le caractère symbolique ont été en nombre limité. Reste que cette décision est pour l'instant provisoire et n'annule pas le décret du 21 juin. La décision définitive, le jugement dit au fond, en termes juridiques, sera rendu à l'automne, a précisé le Conseil d'État. Malgré tout, il s'agit néanmoins d'un camouflet pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait fait de cette dissolution son cheval de bataille. Qualifiant le mouvement d'éco-terroriste en 2022, il justifiait, ouvrez les guillemets, « aucune cause ne justifie les agissements particulièrement nombreux et violents auxquels appelle et provoque ce groupement ». C'est la guerre de l'eau autour des méga-bassines de Sainte-Soline en mars dernier qui a mis le feu aux poudres. Camions brûlés, tirs de LBD en quad, épais nuages de gaz lacrymogène, plusieurs personnes en urgence absolue ou dans le coma, la manifestation contre l'accaparement de l'eau à Sainte-Soline avait tourné au cauchemar. Alors que les militants dénonçaient une répression policière inédite, le ministre de l'Intérieur avait insisté sur, ouvrez les guillemets, l'extrême violence de groupuscules fichés par les services de renseignement, fermez les guillemets, ainsi que l'interdiction de la manifestation annoncée par la préfecture. Le cas français n'est pas isolé. Partout en Europe, les défenseurs de l'environnement dénoncent une multiplication et un durcissement des condamnations, une surveillance renforcée et une judiciarisation des luttes. D'où le soulagement des militants à l'annonce du Conseil d'État. C'est l'inaction climatique qui est criminelle, pas les associations écologiques, a déclaré sur Twitter le groupe Europe Écologie Les Verts Paris. Voilà donc pour cet article qui revient sur une tentative de criminalisation du mouvement social et en particulier d'un mouvement organisé par rapport aux luttes environnementales. Donc on fait un petit tour d'horizon, ça sera à suivre, les suites à donner seront, on en parlera à l'automne, hein, en espérant qu'il y ait une démystification de cette instrumentalisation hein, de qualificatif d'éco-terrorisme, alors que ce sont des luttes de désobéissance civile, évidemment ce ne sont pas des luttes totalement anodines, mais en tout cas ce sont des luttes proportionnées à leur but. C'est en tout cas le mode d'action principal de ce mouvement des Soulèvements de la Terre. Allez, on passe à un autre sujet tout à fait autre. avec toujours Novetic, un article du 31 août qui nous dit que BNP Paribas Immobilier est accusé de détruire une forêt en Île-de-France. Alors, bon, c'est pas une très grande forêt, hein, puisque la filière immobilière de BNP Paribas va installer 600 logements dans 3 hectares à Noisy-le-Grand. Et c'est un espace convoité qui se trouve à quelques pas des futures lignes de métro 15 et 16. Et si le projet suscite de vives oppositions, il souligne aussi la difficulté de concilier des objectifs ambitieux de protection de la biodiversité avec les intérêts économiques des promoteurs immobiliers et des communes. Alors, acacia, hêtre, chêne, de grands arbres se dressent à 150 mètres de la gare de Noisy-Champs. Cet écrin de verdure dense, cartographié comme une forêt à mélange de feuillus par l'IGN et appelé le bois lumière, en référence à l'ancienne école de cinéma voisine, s'étend sur près de 3 hectares, mais en s'avançant sur un chemin formé par des passants, des marques fluo bleues, roses ou blanches décorent certaines écorces. 1,5 hectare, soit près de la moitié de la forêt, doit être défriché selon les plans annoncés en 2023 par le promoteur BNP Paribas Immobilier, qui est une filiale évidemment de BNP Paribas. À la place, donc, 600 logements neufs doivent sortir de terre. Le projet doit démarrer fin 2024 si le permis de construire est validé. Il y a une mauvaise conduite, mais voilà, c'est un permis de construire qu'on délivre. C'est un projet d'un autre temps, fustige l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy et son district, acronyme qui fait Renard. 4000 personnes, dont l'opposition écologiste et socialiste à Noisy-le-Grand, ont signé une pétition pour contester le projet, réserve de biodiversité, puits de carbone pour lutter contre la crise climatique, îlot de fraîcheur. L'association Renard donc défend les atouts de cette forêt dans la région la plus urbanisée de France. Deux petits panneaux prairies et fermes trônent au milieu du bois, issus d'une visite organisée par des habitants de Noisy-le-Grand pour faire découvrir le lieu. Les idées d'alternatives pour valoriser cette forêt laissée à l'abandon ne manquent pas. La cité Paris-Descartes, juste à côté, est une université spécialisée sur la ville durable, explique l'association Renard. Ce serait un lieu parfait d'étude de la biodiversité ou encore de mise en place d'une ferme urbaine. Les arbres y sont aussi des refuges pour les oiseaux. 24 espèces ont été recensées dans le bois et plusieurs s'y reproduisent. La Ligue de protection des oiseaux, donc la LPO, considère le lieu comme un réservoir de biodiversité et un élément de la trame verte indispensable au maintien de la nature en ville à Noisy-le-Grand. C'est aussi, selon elle, un corridor écologique, c'est-à-dire un espace de passage pour la faune. Il contribue ainsi à la continuité écologique en Île-de-France. Pour BNP Paribas, ce projet est l'occasion de participer au développement du Grand Paris. Le promoteur a remporté l'appel d'offres lancé par la ville de Noisy-le-Grand dans le cadre du concours « Inventons la métropole du Grand Paris » en 2019. La demande était de valoriser, avec une dominante résidentielle, cette parcelle de plus de 3 hectares. Ainsi, un espace de, alors c'est terme à la mode, un coworking, c'est-à-dire ben, tout simplement un atelier collectif, en tout cas qui permet des réunions collectives, et une crèche, donc prenant place dans l'ancienne école de cinéma à côté d'habitations, dont un quart devront être des logements sociaux. C'est aussi un investissement dans un territoire de plus en plus attractif, avec l'arrivée prochaine des lignes de métro 15 et 16. Ces 5 dernières années, le prix du mètre carré dans le quartier a grimpé de 43%. Selon le Figaro Immobilier, eh bien, nous y voilà. Hein. C'est vraiment l'économie qui dicte eh bien, les orientations politiques ou les orientations, on va dire, en matière d'urbanisme et d'aménagement. Alors je poursuis l'article. BNP Paribas Immobilier considère que son projet est responsable du point de vue environnemental, bien sûr, hein, face à ce qu'il considère comme une friche, car la forêt n'est pas entretenue. Le promoteur met en avant des aménagements écologiques, bandes d'arbres conservées le long du RER, dalles en matière perméable, toiture végétalisée, réservoirs d'eau de pluie, micro-habitats pour la faune, tels des nichoirs à oiseaux. Ces éléments contribuent à limiter l'impact environnemental du projet, estampillé éco-quartier. En compensation, BNP Paribas prévoit aussi de replanter dans le site plus d'arbres que ceux coupés et de financer un projet de reforestation de 5 hectares dans la région. Ce projet immobilier symbolise les difficultés d'arbitrage sur les enjeux de biodiversité. La loi zéro artificialisation nette issue de la loi climat et résilience de 2021 vise à réduire progressivement l'artificialisation. Cela entre en contradiction avec les besoins de logement, les demandes de mairie, ainsi que les modèles économiques des promoteurs immobiliers. La situation devient paradoxale lorsque des promoteurs prennent des engagements de protection de la nature. C'est le cas de BNP Paribas Real Estate, en 2020. La filiale affirmait son ambition de contribuer à la réduction de l'artificialisation des sols et au développement de la biodiversité sans plus d'indicateurs chiffrés. Si le permis et de construire est accordé, nous dit l'article, donc Fanny Brunval de Novetic. Si le permis est accordé, elle pourrait avoir à justifier de ses contradictions, donc la filiale, devant un tribunal saisi par les opposants au projet. Alors, je vais me rendre, puisque le sujet a été évoqué, alors je ne sais pas si je peux retrouver rapidement, mais je pense que oui. Une information, non, je ne vais pas le faire en direct, hein, voilà, il faut bien préparer parce que sinon après on se trouve complètement perdu, mais je pense que j'avais un article justement sur, il me semble, la question de la compensation. Alors, je ne sais pas si je peux le trouver. Ah bah si, ça y est, je l'ai. Il est là, donc avec Reporter du 28 août 2023. Là, on parlait donc de compensation carbone. Et un article revient sur ce sujet, donc issu du site Reporter, donc du 28 août, et intitulé « La compensation carbone quasi inutile contre la déforestation ». Alors, on savait déjà que les mécanismes de compensation carbone visant à alléger la conscience écologique des voyageurs aériens étaient très peu efficaces. Une récente étude enfonce le clou et généralise la critique sur les crédits carbone. Ce système permet de comptabiliser sous forme de crédit le carbone séquestré ou dont on évite l'émission pour ensuite le vendre et permettre aux entreprises polluantes de compenser, entre guillemets, leurs propres émissions. Dans des travaux publiés le 24 août dernier dans la revue Science, une équipe internationale de chercheurs s'est focalisée sur les projets de crédit carbone liés à la lutte contre la déforestation. Donc, ce qu'on appelle les réductions des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts, donc les REDD+, RE2D+, c'est un acronyme, qui est un concept donc développé par les Nations Unies. En étudiant 18 projets dans 5 pays abritant des forêts tropicales, le Pérou, la Colombie, le Cambodge, la Tanzanie et la République démocratique du Congo, les chercheurs ont calculé que sur les 89 millions de crédits carbone que pourraient générer ces projets, donc REDD+, seuls 5,4 millions seraient associés à des réductions d'émissions de carbone effectivement dues aux actions de préservation des forêts menées par ces projets. Autrement dit, à peine 6% des compensations d'émissions de carbone revendiquées via les projets REDD+, donc estampillés par les Nations Unies, le seraient réellement. Les scientifiques pointent notamment la tendance à surestimer les risques de déforestation dans certaines régions pour vendre ensuite davantage de crédits carbone. Ces crédits carbone consistent essentiellement à prédire si quelqu'un va abattre ou non un arbre et à vendre cette prédiction. Si vous exagérez ou si vous mésinterprétez cela, volontairement ou non, vous ne vendez que du vent. Résume auprès de l'AFP Andreas Contoleon, qui est professeur à l'Université britannique de Cambridge et co-auteur de l'étude. L'efficacité des mécanismes REDD+ fait l'objet de controverses depuis près de 20 ans, soulignent les auteurs. Ils rappellent qu'il est d'autant plus urgent d'en améliorer le fonctionnement que les projets REDD+ représentent pas moins des 2/3 des crédits carbone liés à l'utilisation des terres dont le marché mondial est estimé à 1,3 milliard de dollars. Cette nouvelle étude conforte des résultats précédents, également relayés par une enquête journalistique du média britannique The Guardian, de l'allemand Die Zeit, en collaboration avec l'ONG Source Material, qui concluait que 94% des crédits REDD+ n'avaient aucun intérêt pour le climat. Donc on le voit, la compensation, c'est vraiment l'argument, on va dire, de bonne conscience pour justifier les destructions, bien sûr, peu importe finalement de reconstituer, je vais prendre un exemple caricatural, hein, au cœur de la forêt de l'Amazonie, quand on a autour de nous des îlots de chaleur urbains et la destruction de tout ce qui peut être espace vert, verdure et tout simplement la nature qui a un intérêt pour elle-même et en elle-même et pas au regard de considérations sonnantes et trébuchantes, ni même au regard de considérations d'activité économique humaine. Voilà, et puis peut-être pour conclure ce petit, cette petite introduction, je voulais quand même revenir sur deux phrases, alors toujours avec ces deux journaux. La première qui est reprise dans le site Reporter, c'est une citation du président de la République qui nous dit que la transition écologique doit être rendue désirable et ne pas sembler irréalisable. Et c'est ce qu'il a déclaré dans un entretien accordé au Point le 23 août, qui a été consulté donc par BFM TV. Et il plaide notamment, donc le président de la République, pour une écologie exigeante de progrès, de projets, de bon sens, de solutions dans le cadre d'une planification reposant sur les analyses scientifiques, et estime qu'il faut expliquer vers où nous devons aller et responsabiliser plutôt qu'interdire. On voit bien le fait que bien, c'est the show must go on, hein, l'économie avant tout. En fait, on peut faire de l'écologie que si c'est compatible avec les intérêts économiques. Or, c'est totalement l'inverse, hein. Il est évident que contrairement au schéma des Jeux Olympiques, là, des cercles qui s'intersectent du développement durable avec le social, l'environnemental et l'économique, en disant qu'il faut trouver le juste milieu, il est bien évident que toute l'activité économique s'inscrit dans l'ensemble du champ social qui lui-même est inscrit dans le champ environnemental, et que évidemment cette priorité, bien si une activité économique, même rentable, très rentable, n'est pas compatible avec l'environnement, ben il faut tout simplement l'arrêter, reconvertir l'activité, savoir ne pas faire, sortir de la logique de croissance, en passant par une répartition autre des richesses, bien sûr, et une définition de ces richesses tout à fait autre. On voit qu'on est dans le scénario bien habituel, finalement, en disant on peut faire de l'écologie que si c'est compatible avec les intérêts capitalistes et financiers. On voit bien dans quelle logique s'inscrit le président de la République. Et puis, ben, pour lui faire écho, cinq jours plus tard, avec Reporter, donc, bien la première ministre promet au patron des normes environnementales assouplies. Alors, vraiment, il faut toujours trouver des termes assouplissement, c'est forcément positif, hein. C'est tout l'art de la publicité, et on peut se demander d'ailleurs à quel point l'activité politique n'est pas une forme tout simplement de la logique publicitaire, puisqu'il s'agit d'habiller les discours, donc des normes environnementales assouplies. Simplifier les normes environnementales, encore et toujours, la Première ministre a réaffirmé cette volonté de l'exécutif devant un parterre de patrons à l'université d'été du MEDEF, le 28 août. Donc citation, c'est d'Elisabeth Borne, c'est « Je souhaite qu'on puisse recenser avec vous les principaux irritants, qu'on puisse les lever sans renoncer à nos objectifs, notamment sur certaines normes environnementales, en associant des entreprises, des parlementaires et l'administration pour avoir des résultats visibles dès 2024. » Alors, je reviens sur cette citation avec l'emploi du terme « irritant », là, qui est vraiment pile dans la novlangue managériale, hein, de ce jargon qui nous étouffe, qui vient parfois de mauvaises traductions de termes anglo-saxons. Donc là, il faut lutter contre les irritants. Les irritants, ben voilà, c'est tout ce qui agace le patronat, tout ce qui le gratte, et on emploie ce terme. En fait, l'irritant, bien, c'est quelque chose, on va dire de sanctifié, quoi, hein, puisque on voit que la Première ministre veut supprimer ça, et que on constate aussi, ça a été dit dans un certain nombre par un certain nombre d'observateurs, que dans cette rentrée, en tout cas des partis politiques, et en tout particulièrement du gouvernement, le sujet de l'environnement est totalement absent. Voilà, on sait très bien comment c'est traité, on se fait des sommets pour pleurer sur le sort des petits oiseaux, et puis bah, dès que le sommet est fini, les intérêts économiques reprennent leurs droits. On est tout à fait dans cette logique. Donc voilà, je reprends rapidement l'article. Donc la forme que prendra cette nouvelle simplification des normes environnementales n'est pas encore connue, mais on suppose que ça va aller dans le sens de, évidemment, de plus de tolérance par rapport à bien à s'affranchir de la préservation de la nature. Alors l'article rappelle qu'en mai dernier, le président de la République avait déjà provoqué un tollé en appelant à une pause réglementaire européenne sur les normes environnementales. Nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations au niveau européen, plus que les voisins, avait alors expliqué le chef de l'État devant un parterre de 300 invités, donc comptant des ministres, des élus, des chefs d'entreprise, des représentants du patronat, des syndicats et d'associations, qui avaient été conviés à l'Élysée pour la présentation du plan pour le verdissement de l'industrie. On voit bien que, enfin, on le dit dans cette émission, justement, la transcription de directives européennes avec des condamnations, notamment sur l'environnement, sur la qualité de l'eau, par exemple, mais pas seulement. On voit bien que tout cela, c'est une belle réalité. Donc, quand on nous explique qu'on a passé beaucoup de réglementations en France au niveau européen, on est très très loin du compte. On est quasiment les champions de la consommation de pesticides. On est dans le peloton de tête de la qualité de l'eau dégradée. On a tout un tas de sujets qu'on va voir peut-être d'ailleurs et redévelopper dans la suite de cette émission. En attendant, je vous propose, comme l'introduction a été relativement longue, de s'accorder un intermède musical un peu long, mais ça fait du bien, hein, on prend un peu notre souffle. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre.
Thank you.
A Forest, The Cure, sur Radio Libertaire, 89,4 MHz. Il s'agit d'une forêt humaine, d'une forêt urbaine. Mais voilà, ça nous fait quand même voyager, respirer. Vous êtes à l'écoute donc des Mangeux de Terre sur Radio Libertaire et nous allons passer et ouvrir la rubrique sur l'eau avec bien un communiqué de la Confédération Paysanne du 29 août par rapport au nouveau chantier de bassine à Prière. Puisque lundi dernier, 28 août, des militants du collectif Bassine Non Merci se sont rendus sur le terrain prévu pour la nouvelle méga bassine de Prière, donc dans les Deux-Sèvres. Et leur constat, c'est que plusieurs engins de chantier sont arrivés sur place et ont commencé à creuser à la hâte. Après le convoi de l'eau, à une semaine du Rassemblement National du 8 septembre, pour le procès des porte-paroles du mouvement anti-bassine, ce nouveau passage en force est une insulte faite à la possibilité d'un retour au dialogue sur le dossier bassine et sur la question d'un réel partage de l'eau sur nos territoires entre agriculteurs et pas au seul profit d'une petite minorité. Et entre tous les usagers, des représentants de Bassine Non Merci et d'autres organisations engagées dans le mouvement anti-bassine sont revenus vendredi dernier, tenir un point presse devant les grilles du chantier en exposant les conséquences sur les nappes phréatiques et cours d'eau voisins, en premier lieu le Mignon, et ont détaillé la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles mobilisations massives, donc par nous-mêmes, le moratoire que le gouvernement se refuse à prononcer. Déjà vendredi 25 août, nous avions appris la pose des grilles annonciatrices de ce nouveau chantier, alors même qu'une délégation composée de membres de Bassine Non Merci, de la Confédération Paysanne et de participants au convoi de l'eau était en rendez-vous avec la nouvelle préfète de bassin, Sophie Broca, dans les locaux de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans. La délégation venait de lui rappeler la condition sine qua non à toute reprise de dialogue, un moratoire sur les chantiers en cours et à venir et sur les financements publics accordés à la construction des méga-bassines. Le même jour, le président du comité de bassin, Thierry Burlot, soulignait que le début des travaux à Prière serait vécu comme un camouflet par le comité. Pourtant, le chantier a bel et bien démarré, donc une véritable provocation de la part de l'État contre les défenseurs de l'environnement et de l'agriculture paysanne. Le refus obtus du dialogue et le mépris de la préfète Broca pour les délégués du convoi témoignent de l'absence complète de considération de l'État pour les revendications citoyennes. C'est donc à l'issue d'un été caniculaire, cataclysmique dans de nombreuses régions du monde, que la Société Anonyme Coopérative de l'Eau choisit de lancer un nouveau chantier. Le caractère nocif des méga-bassines est pourtant connu et reconnu au plan scientifique. Il s'agit d'une caricature de maladaptation au changement climatique. Au-delà, ces structures d'accaparement de l'eau ont un rôle qui est bien connu. Maintenir les rendements des maïsiculteurs et céréaliers qui en bénéficient et contribuent par leur mode de production à l'assèchement des terres et à la dégradation de la biodiversité au détriment de l'agriculture paysanne. Ce modèle dépassé consistant à soutenir les exportations de l'agriculture industrielle est une véritable fuite en avant dans le contexte de changement climatique. Il faut au contraire repenser un véritable partage de l'eau entre agriculteurs pour qu'elle ne soit pas accaparée par une minorité mais profite à toutes et tous et permette un changement de modèle agricole. Au-delà de l'aberration agricole, sociale et environnementale, les méga-bassines sont aussi un gaspillage d'argent public pointé par la Cour des comptes. Ainsi, la Cour des comptes donc assure dans un rapport du 17 juillet 2023 que, citation, « les réserves de substitution s'avèrent inutiles en cas de sécheresse hivernale ou pluriannuelle » et elle indique à juste titre que « le raccordement aux réserves n'est pas conditionné a priori à des pratiques plus économes en eau et plus vertueuses pour la qualité de l'eau, redoutant même que la modification nécessaire de certaines pratiques agricoles ne soit retardée par le raccordement aux méga-bassines ». Je crois que c'est vraiment clair, hein. Le moratoire donc réclamé par ces collectifs est la seule solution pour sortir de la crise de manière apaisée. Nous ne pouvons pas discuter sérieusement sur une éventuelle remise à plat du dossier bassine pendant que des chantiers démarrent ou continuent devant nos yeux. Le proposé est indécent. Bassine Non Merci, la Confédération Paysanne et les Soulèvements de la Terre ont posé le moratoire sur les chantiers et les financements en cours comme l'acte nécessaire du retour au dialogue. Comme cela a été acté le vendredi, ça devait être le 21, devant l'agence de l'eau après le refus de la préfète de suspendre réellement le chantier de Prière, nous devrons mettre en œuvre le moratoire sur le terrain nous-mêmes et avec l'ensemble de celles et ceux qui défendent la ressource en eau. Eh bien, voilà, alors sur justement cette défense de la ressource en eau, on en parle souvent. Il y a Eau et Rivières de Bretagne, et là encore dans l'actualité, donc c'est une association, hein, dans l'actualité, une actualité très éclairante. Donc un communiqué de l'association du 29 août 2023 sur la pollution qui fait parler d'elle à Landerneau, donc près de Brest, et en cause une fuite sur le réseau d'eau usée pollution sur laquelle les équipes d'eau du Ponant travaille activement depuis plusieurs jours. La Fédération départementale syndicat agricole, la FDSEA, dénonce sur les réseaux sociaux l'absence de réaction des associations environnementales qui sont très réactives pour attaquer l'agriculture, apparemment plus silencieuses lorsqu'il s'agit de dénoncer les atteintes à l'environnement. Donc, pour résumer, hein, elles disent, oui, il y a une fuite sur le réseau d'eau usée en cours et les associations environnementales n'en parlent pas. Alors, pour revenir sur les faits, donc, l'association nous dit que c'est un promeneur qui, effectivement, jeudi 24 août au soir, a signalé l'écoulement des eaux usées dans l'Élorne entre les pierres du quai de part et d'autre du pont du Kernafron. Narfon. Les doutes ont pu être confirmés visuellement vendredi matin et après alerte immédiate au réseau, donc État, collectivité, agence régionale de santé et conchyliculteurs, les pompiers ainsi que les techniciens d'eau du Ponant ont été sur place pour poser un barrage de l'eau pour limiter la propagation de la pollution en surface et tenter de localiser la fuite dans un contexte rendu très délicat par les nombreuses conduites d'eau et de gaz présentes. Malgré leur engagement total qui s'est poursuivi tardivement vendredi et tout le week-end, donc le week-end, voilà, il y a 8 jours, ils sont toujours à la recherche de l'emplacement exact de la fuite et les sondages restent en cours à Landerneau, près du Family et au niveau du parc urbain. Le tronçon Fuyard a néanmoins pu être isolé par le système de bypass, afin de concentrer toutes les eaux usées vers une conduite fonctionnelle. Si la quantité écoulée est difficile à évaluer, l'impact milieu est faible, sur le milieu est faible, puisque ouvrez les guillemets. Les constats effectués par l'Office français de la biodiversité ont confirmé l'absence de mortalité piscicole. Les résultats d'analyse concluent à une conformité de la qualité des eaux au-delà de 300 mètres du point de fuite, selon la préfecture. Donc ça, c'est, je viens de parler d'une fuite que la FDSEA du Finistère a exploitée en disant oui, les associations environnementales ne réagissent pas quand il y a ce genre de pollution, c'est vraiment très sélectif. On voit que la conclusion, c'est que il n'y a pas eu de mortalité piscicole et une qualité des eaux conforme au-delà de 300 mètres du point de fuite. Donc ça, c'est information préfecture. Et alors, timing étonnant. Lundi dernier, donc 28 août, en fin d'après-midi, au moment même où la FDSEA du Finistère s'agitait sur les réseaux sociaux en dénonçant l'absence de réaction des associations environnementales, les sentinelles associatives de l'AAPPMA de l'Élorne étaient informées d'une pollution en cours sur le Justissou, qui est un affluent de l'Élorne, et du déclenchement des alarmes de l'usine de production d'eau potable de Pontarbled. L'explication, c'est donc dû à un taux anormal de 1,2 mg par litre d'ammonium, donc NH4, identifié au point de pompage, qui a conduit l'opérateur eau du Ponant, encore lui, à couper à titre préventif l'alimentation en eau potable depuis Pont-Arbled et à solliciter l'interconnexion avec le Baléon, donc voilà cette région du côté de Brest. La station a été remise en fonction dans la nuit vers 22h30. La pollution viendrait d'une défaillance au niveau de la station d'épuration d'un élevage porcin de Plounéventerre, dont le système d'alarme ne se serait pas déclenché. L'écoulement de lisier dans le Justissou, un affluent de l'Élorne, aurait perduré pendant plusieurs heures. Les premiers constats de terrain réalisés par l'AAPMA de l'Élorne font état d'une mortalité totale des poissons sur les 6,875 km du cours d'eau entre l'origine de la pollution et de Plouéderne. Alors en effet, conclut l'association, il y a bien deux poids deux mesures. Pas celle que semble sous-entendre le syndicalisme majoritaire finistérien qu'on laissera à ses théories complotistes. Deux poids car la charge polluante d'une fuite de quelques mètres cubes d'eau usée urbaine n'est absolument pas comparable à celle d'un déversement massif et brutal de lisier. Deux mesures car la chaîne d'alerte et les moyens humains et techniques mobilisés par l'opérateur public de l'assainissement pour le compte de la communauté d'agglomération sont sans commune mesure avec la légèreté avec laquelle le risque industriel est pris en compte par les tenants du productivisme agricole. Pour autant, Eau et Rivières de Bretagne déposera plainte sur ces deux pollutions de l'Élorne. Voilà, c'est une remise au point, illustrant aussi, on en parlait au début hein, de l'émission, toutes ces tensions localement avec entre les associations environnementales et le syndicat majoritaire productiviste agricole, la FDSEA, FNSEA. Alors, toujours dans les joyeusetés concernant l'eau, avec une information du 22 août. Alors, cette information, je pense que c'est, oui, c'est Novetic, c'est ça, qui revient sur une décision qui ne coule pas de source, puisque depuis plusieurs mois, des riverains se mobilisent contre l'exploitation d'une nappe d'eau souterraine par la société Alma. Alma est l'un des leaders sur le marché de l'eau embouteillée en France, qui commercialise, entre autres, l'eau cristalline. À l'heure où de nombreux habitants sont dépourvus d'eau potable au robinet et que les trois quarts des nappes phréatiques françaises sont au plus bas, la polémique enfle. Un bras de fer s'est engagé entre les habitants de Montagnac dans l'Hérault et le leader sur le marché de l'eau embouteillée Alma, qui possède entre autres Saint-Yor, Vichy, Cristalline ou encore Thonon. Et la raison est évidemment l'accaparement par l'entreprise d'un terrain pour y installer une nouvelle usine d'embouteillage. Vendues par la mairie pour 30 000 euros, ces parcelles sont une aubaine pour la société Alma, et ce pour deux raisons. La première est qu'à près de 1500 mètres de profondeur dort une nappe d'eau souterraine officiellement classée masse d'eau souterraine stratégique pour l'alimentation en eau potable. Et la deuxième est qu'un forage existe déjà sur le terrain. L'entreprise pourrait donc à terme l'exploiter si elle en obtenait le droit. Une situation ubuesque pour la population aux alentours qui peine déjà à avoir de l'eau au robinet et qui est elle-même contrainte d'acheter de l'eau en bouteille. Dans notre vallon, nous n'avons pas d'eau de la commune, chacun est ici dépendant soit d'un forage ou d'un puits, explique auprès de Novetic donc Christophe Savary de Beauregard. Ce viticulteur dépend essentiellement d'un puits pour son approvisionnement en eau, mais il dit être obligé d'acheter chaque semaine de l'eau minérale en bouteille pour sa consommation personnelle et celle de ses clients puisqu'il a également deux gîtes. Depuis plusieurs mois, Christophe Savary se bat avec son association Veille au Grain, beau jeu de mots, Veille au Grain, et d'autres riverains pour que ce projet ne voie pas le jour. Cette réserve d'eau est colossale et nous estimons que la commune doit la garder en cas de coup dur, insiste-t-il. Cette source pourrait, selon ses estimations, alimenter une ville de 20 000 habitants. Or, l'eau est une denrée rare dans la région. D'après le site gouvernemental Vigio, la ville de Montagnac se trouve sur une zone dite en crise, à savoir le plus haut niveau d'alerte mis en place. À ce stade, seuls les usages prioritaires sont autorisés, ainsi que les prélèvements en eau pour l'agriculture ou les usages domestiques. Les usages prioritaires sont autorisés, alors que, à contrario, les prélèvements en eau pour l'agriculture, les usages domestiques et publics sont strictement interdits. Alors, Novetic a interrogé la société Compagnie Générale d'Eau de Source CGES, qui est une filiale d'Alma, et qui lui a assuré que la commune de Montagnac a proposé la reprise du forage pour une éventuelle exploitation, ainsi que les parcelles sur lesquelles il est implanté. De son côté, la mairie est restée muette aux sollicitations donc, de Novetic. Alma a promis d'y installer une usine d'embouteillage avec à la clé 20 emplois au démarrage et une soixantaine à terme, un argument bien insuffisant pour Christophe Savary. De tels postes existent déjà non loin d'ici et ils ne sont pas pourvus. Donc pourquoi en créer de nouveaux, s'interroge-t-il. L'autre argument avancé par la municipalité de Montagnac pour justifier cette vente est le coût de la remise en état du forage estimé à 400 000 euros. Pour l'heure, l'entreprise n'a signé qu'une promesse de vente et n'est donc pas encore propriétaire du forage. Cette vente reste conditionnée au déclassement préalable par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires du gîte actuellement soumis au code minier, mais également aux conclusions de l'étude d'impact environnemental qui vient d'être lancée en juillet dernier et qui devrait durer 18 mois, reportant ainsi tout projet jusqu'à janvier 2025. La création de cette nouvelle source reste une opportunité pour le groupe Alma, leader sur le marché français de l'eau en bouteille, avec 28% des parts de marché à égalité avec Nestlé Waters et loin devant Danone qui a 19%. Or, la crise climatique et les sécheresses successives fragilisent de plus en plus cette économie, pourtant en pleine expansion. Un certain nombre de compagnies sont aujourd'hui accusées par les populations locales d'épuiser les nappes phréatiques comme à Vittel dans les Vosges ou à Volvic en Auvergne. Cette économie aggrave le problème car elle perturbe le cycle naturel de l'eau, explique à Novetic l'ingénieur hydrologue Charlène Descollonges et auteur de L'eau fake or not aux éditions Tana. Cette eau puisée pour être embouteillée et exportée ne retournera jamais dans son milieu d'origine. Ça représente des volumes considérables d'eau ainsi détournée. En 2021, la France a produit plus de 11 milliards de litres d'eau, dont près de 2 milliards ont été exportés jusqu'en Chine ou en Argentine. On devrait plutôt s'attacher aujourd'hui à remettre de l'eau dans les nappes. Or, on continue d'accorder des droits d'exploitation à des entreprises pour les assécher toujours plus, regrette Charlène Descollonges. De son côté, le secteur se défend d'altérer cet écosystème. On travaille avec des nappes aquifères très profondes qui ne sont pas impactées par les aléas climatiques, a expliqué à Novetic Antoine Cardon, le délégué général du syndicat des eaux de source et des eaux minérales naturelles. La scientifique déplore toutefois les méthodes de gouvernance et de gestion de l'eau toujours plus déconnectées des besoins des citoyens, dont Montagnac est le parfait exemple. Mais ce nouveau projet pourrait bien tomber à l'eau au regard de la dernière décision de la préfecture de l'Hérault de rejeter l'installation d'un nouveau golf jugé trop gourmand en eau. Voilà, on voit donc un article de Blandine Garot dans Novetic. On voit bien toute l'absurdité hein, de ces systèmes. Plus je pollue, plus je m'enrichis. C'est-à-dire, on fait voyager sous couvert de consommer une eau pure. On fait voyager bien des bouteilles en plastique sur des milliers de kilomètres. Au final, le progrès, enfin le stade ultime du progrès est évidemment d'avoir de l'eau potable au robinet et non pas à grand renfort de marketing. S'imaginer retrouver une seconde jeunesse, de bénéficier d'une cure de jouvence parce que on boit de l'eau qui est contenue d'ailleurs des minéraux qui ne répondent pas aux normes de potabilité de l'eau du robinet, soit dit en passant. Voilà, on vend bien ce sujet. C'est un petit peu comme lutter contre le réchauffement climatique en développant la climatisation. On le reverra tout à l'heure. C'est toute l'absurdité du système qui, justement, toute l'absurdité de cette société de croissance et de cette économie capitaliste basée sur la croissance et sur plus je casse, plus je répare, plus je m'enrichis, plus je détruis, voilà. Hein, on est face vraiment à ces paradoxes et donc toutes ces luttes sont absolument nécessaires. Alors, comme le sujet était un peu triste et qu'on parlait de l'eau en bouteille, je crois que c'est l'occasion ou jamais de diffuser bien un petit sketch historique très connu, mais enfin ça fait du bien de se le réentendre. Et vous êtes sur Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre.
Monsieur le délégué de la Ligue anti-alcoolique vous parle.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale. De l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fier. Je suis fier de faire à cheval sur le principe une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool? Dans l'eau ferrugineuse, hein? C'est parce que le fer a passé. Non, pas le fer. L'eau, disais-je. L'eau, c'est parce que l'eau à passer et repasser sur le fer, et le fer a dissous. Il a dissous le fer. Et le fer a dissous, c'est pas cher, hein? Alors, pourquoi boire cet alcool qui, plus onéreux que l'aura fera chez une reineuse, ruine la santé et le portefeuille? L'alcool, non, mais l'eau fera chez une reineuse, oui. D'ailleurs, l'alcool brûle les tissus de l'organisme. Et vous le sentez quand vous en buvez, quand vous en buvez. Ça pique. Alors que le verre solitaire... non, pas le verre solitaire. Le fer est salutaire. Il est salutaire, le fer. D'ailleurs, ne dit-on pas une santé de fer, hein? Un homme de fer, un chemin de fer. Un mammifère. Alors suivez-moi. Et comme disait mon grand-père, mon grand-père, il faut vivre, mais il faut pas s'en faire. L'alcool, non, mais l'eau fera sur un râneux, oui.
Voilà, c'était Bourvil, vous l'aurez reconnu dans le sketch de l'eau ferrugineuse, une façon, une pirouette pour bien passer du sujet de l'eau en bouteille. Ah, maintenant la page climat, vous êtes à l'écoute donc de Radio Libertaire sur 89,4 MHz avec un petit bilan, bah, toujours grâce à Novetic, sur bah, l'effet marquant, on va dire, de cet été, donc 5 mots d'un été hors normes, puisque accentué par le changement climatique, certains phénomènes météorologiques se sont succédés en France tout au long de la période estivale avec son lot de mots nouveaux. Et donc, Novetic revient sur ces termes avec le premier, c'est celui de la notion de sécheresse éclair, qui est un nouveau phénomène qui a frappé le pays, puisqu'au début de l'été, une large partie du pays a été frappée donc, par cette sécheresse éclair, qui est un phénomène récent en France. D'après une étude publiée dans la revue Science, elle se caractérise par une importante évapotranspiration en raison d'un fort ensoleillement, d'un manque de précipitations et d'un vent continu desséchant. Ce qui entraîne de fait une déperdition très rapide en eau des sols et des végétaux, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'agriculture. Selon l'agroclimatologue Serge Zaka, interrogé par Novetic, ce phénomène de sécheresse éclair a toujours existé, mais il était auparavant moins intense et moins violent, et passait généralement inaperçu. Sous l'effet du changement climatique, ces sécheresses sont devenues plus fréquentes et plus violentes. D'ailleurs, ce phénomène devrait s'amplifier pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Deuxième sujet, sur la notion de thermomètre mouillé. Jusqu'à quel niveau le corps humain est-il en mesure de résister à la chaleur? Pour répondre à cette question, les scientifiques font appel à un indicateur appelé donc le thermomètre mouillé, ou également nommé température humide. Cet indicateur mixe la température et l'humidité et mesure notamment la température à laquelle l'évaporation de l'eau peut encore refroidir l'air. L'effet du thermomètre mouillé était initialement mesuré en plaçant un chiffon humide sur un thermomètre ensuite exposé à l'air. ce qui permettait de mesurer la vitesse à laquelle l'eau s'évaporait du tissu, comme pourrait le faire la transpiration de la peau. Cette méthode permet ainsi d'évaluer si la température extérieure s'approche d'un seuil au-delà duquel l'homme n'est plus en mesure de transpirer et donc de se refroidir. En l'absence de sudation, le corps humain se détériore rapidement. La limite théorique de survie humaine au thermomètre mouillé est de 35 degrés avec une humidité de 100% ou de 46 degrés avec 50% d'humidité dans l'air. Troisième notion, la notion de bouilloire thermique. C'est très connu, en tout cas dans notre région, même si nous avons évité, en tout cas en Île-de-France, les épisodes les plus critiques de canicule. Pour autant, on a pu constater ces phénomènes de bouilloire thermique, puisque ce sont des passoires l'hiver et des bouilloires l'été. C'est un terme qui est apparu au début de l'été lorsque l'association à la Fondation Abbé Pierre a révélé qu'en France, plus de 5 millions de logements difficiles à chauffer en saison froide deviennent impossibles à refroidir lors des vagues de chaleur. Et avec un autre chiffre selon lequel plus d'un Français sur deux dit souffrir de la chaleur dans son logement, soit près de 40 millions de personnes, selon les données du médiateur national de l'énergie. Et les personnes les plus concernées par ce problème sont les jeunes, les personnes âgées et les populations précaires en zone urbaine. Ces derniers vivent dans des îlots de chaleur urbains dont le béton stocke la chaleur la journée et la rediffuse la nuit, selon le communiqué de l'étude publié par l'ONG le 26 juin dernier. Les raisons avancées sont la mauvaise isolation du bâti, la surexposition au soleil ou l'absence de protection ou de volets. Sur ce sujet-là, on en parle relativement souvent, hein, mais c'est en tout cas un système dans lequel on protège très largement le droit de propriété, par lequel on est, comme il a été évoqué en début d'émission, sur l'incitation et non pas sur l'obligation, qui fait que le niveau de la mise à niveau par les propriétaires des logements prend énormément de temps, hein, puisque un logement est quand même assez globalement et généralement une machine à cash et une machine à spéculer. D'ailleurs, ça me permet peut-être de, si je retrouve l'article, hein, quand on travaille sans filet, on risque de s'y perdre, mais je crois bien que, je l'ai lu dans le Canard enchaîné de cette semaine, mais les résultats sont impressionnants, puisque si je ne me trompe pas, il y a plus de 2 millions de millionnaires en France, et essentiellement pour cause de biens immobiliers, hein. On va dire que évidemment acheter des logements, ça fait prospérer son capital, mais pour revenir au sujet qui nous préoccupe, à savoir les passoires et les bouilloires thermiques, bien évidemment quand on a des machines à cash dans lesquelles on est simplement incité à investir et non pas obligé, au sens où un logement est une condition de la dignité humaine et donc c'est pas une marchandise, bien sûr. On ne faut pas s'étonner qu'on en soit à un niveau de performance énergétique globale dégradé. Allez, quatrième terme de l'été, la canicule tardive, symptôme du changement climatique. Alors, on en a un petit peu les prémices, puisque le jeudi 24 août, alors c'était il y a un peu plus de, presque deux semaines, 24 août a été la journée la plus chaude qu'ait connue la France après un 15 août, selon les données de Météo France. L'indicateur thermique national qui donne une moyenne des températures à l'échelle du pays est monté à 27,8. La précision après un 15 août est importante, car cela fait de cet épisode une canicule tardive. En France, on compte depuis 1947 seulement 6 canicules tardives et toutes ont eu lieu après 2000. Un phénomène symptomatique du changement climatique provoqué par les activités anthropiques dans leur sixième rapport publié en 2021. Les experts du GIEC expliquaient que les températures extrêmement chaudes peuvent survenir plus tôt ou plus tard dans l'année que par le passé. Ces canicules précoces et ou tardives vont donc devenir de plus en plus fréquentes, aussi bien en juin que fin août. Et puis dernier concept nouveau aussi, c'est l'isotherme 0 degré. En cette fin d'été, nos hauts sommets ne sont pas non plus épargnés par les fortes chaleurs. Du lundi 20 au mercredi 23 août, l'isotherme 0 degré se situait aux alentours de 5000 mètres d'altitude dans le sud de la France. Cet indicateur désigne l'altitude à laquelle la température atteint 0 degré et donc à partir de laquelle le manteau neigeux est susceptible de fondre. Le Mont Blanc, situé à 4809 mètres, connaît ainsi des températures positives à son sommet et donc le dégel. Ce phénomène, bien que rare et inhabituel, est surtout synonyme de fonte des glaciers et de chute de pierres. Ces derniers jours, d'importants éboulements de roches ont eu lieu dans les Alpes. Le 23 août, près de 20 000 mètres cubes de pierres se sont détachés de la face nord de l'aiguille du Midi. Deux jours plus tard, un alpiniste a perdu la vie après une chute de pierres dans le couloir du Goûter, voie classique d'accès pour l'ascension du Mont Blanc. Ces dérochements se sont accentués ces dernières années sous l'effet du changement climatique, car ils sont généralement liés à la fonte du permafrost, cette glace éternelle présente dans les fissures des roches qui les maintient entre elles. Et puis ça me donne l'occasion, cet article, de faire le lien aussi avec la revue L'Âge de Fer, le mensuel de ce mois-ci. Et cette petite brève qui nous dit que sur la clim, on a des chiffres. Et que donc plus le climat se réchauffe, plus on climatise et plus le climat se réchauffe. Sur les 1,5 milliard de climatisateurs déjà installés dans le monde, eh bien ça représente 10% de la consommation électrique, soit 2,5% des émissions de CO2 mondiales d'après l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. À quoi il faut ajouter les émissions de gaz réfrigérants liées à des fuites inéluctables lors de l'entretien et de la fin de vie des appareils. Et donc on obtient 3,5 millions de tonnes d'émissions équivalent CO2 uniquement en France, d'après l'Agence de la transition écologique, qui est le nouveau nom de l'ADEME. Et enfin, la clim rejette de la chaleur. Vincent Viguier, chercheur au CNRS, a calculé que si tous les Franciliens installaient la clim, la température extérieure pourrait augmenter de 2 degrés dans la région. D'après le scénario intermédiaire du GIEC, qui n'est pas le plus pessimiste, la température globale devrait augmenter de 2 degrés en 2050. L'Agence internationale de l'énergie table sur un triplement des clims d'ici là. Pas de quoi être optimiste quant aux prévisions du GIEC pour 2100. Effectivement, et on s'aperçoit, en tout cas, là c'est du ressenti personnel, on s'aperçoit de la banalisation, il fait chaud, il n'y a qu'à installer une clim. Et tant et si bien que j'ai pas regardé les chiffres, mais ça doit se voir hein, maintenant, ce qui était quasiment inconnu il y a 15-20 ans, à savoir les pics de consommation électrique pendant l'été, sont de plus en plus forts et amenés à être de plus en plus forts. Je pense que, alors, installer la clim, bien sûr, pour des questions de survie, quand c'est tout à fait insupportable, mais voilà, dans un certain nombre de cas, c'est aussi cette logique de se dire que bien il faut s'adapter à une contrainte environnementale et trouver des solutions qui ne passent pas forcément par le gadget qu'on veut bien nous vendre, et sortir un peu de cette facilité. On le voit, j'interviens souvent sur cette antenne par rapport au fait que les politiques ont décidé que les gens ne feraient pas de vélo s'il n'y a pas une assistance électrique, un moteur, et donc l'ont largement subventionné, alors que dans un certain nombre de villes, assez largement, quand on a une santé correcte, eh bien il est tout à fait possible de faire du vélo sans assistance électrique. Eh bien là, c'est l'idée de supprimer tout effort, toute contrainte, et de rendre finalement ce produit bien comme une évidence. Hein. J'ai le droit à un logement frais, mais à quel prix ? C'est vraiment la question qu'il faut se poser, et c'est ce sur quoi je voulais réagir. Et puis pour poursuivre, peut-être avec la question des transports, un article qui m'a paru intéressant dans la revue La Relève et la Peste, qui ne vit que bien de ses lecteurs et lectrices, pas de la publicité, donc et qui fournit des articles de fond que j'utilise souvent, et toute cette presse, d'ailleurs j'en profite pour le dire, il faut vraiment la soutenir, parce que voilà, elle n'est pas soumise aux intérêts capitalistes, et permet de faire émerger évidemment des problématiques, des informations, problématiser les sujets, les politiser, et c'est vraiment très important. Hein. Évidemment, on ne va pas se laisser informer par les robinets à publicité que sont devenus les médias principaux, la plupart d'ailleurs étant dans les mains de grands groupes industriels, sans parler même de marchands d'armes. Voilà, donc vous êtes sur Radio Libertaire, 89,4 MHz, la radio sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste, et nous poursuivrons l'émission Les Mangeux de Terre après ce petit plaidoyer. Donc sur la question des transports, eh bien, l'article de La Relève et la Peste du 31 août nous parle du Luxembourg, qui est le premier pays au monde à avoir instauré la gratuité des transports publics, et le constat est fait que le règne de la voiture persiste. En effet, ça a été mis en place depuis 2020, cette gratuité, et qui est louée, appréciée par de nombreux Luxembourgeois, tant pour les avantages financiers qu'écologiques. Pourtant, face à la place toujours prédominante qu'occupe la voiture dans le pays, les chercheurs et associations de défense de l'environnement appellent à de nouvelles mesures fortes. Il y a 3 ans et demi, donc, cette annonce avait marqué les esprits. Dans un petit pays de 660 000 habitants, en mars 2020, donc ça a été le premier pays au monde à rendre ses transports publics entièrement gratuits. Donc tout le monde en profite, résidents, touristes, travailleurs étrangers peuvent monter librement à bord de l'ensemble des trains, bus et tramways. Seule exception à la suppression des tickets, les billets et abonnements de première classe dans les trains restaient payants aux tarifs en vigueur, ainsi que les trajets transfrontaliers. Cette décision historique mise en œuvre pour désengorger le trafic routier et inciter les citoyens à privilégier les transports publics par rapport à la voiture, dont se félicite aujourd'hui nombre de Luxembourgeois, à l'image d'Anissa Sio, qui dit « C'était une mesure que tout le monde attendait, se souvient la jeune femme de 29 ans, ça coulait de source aussi bien pour des raisons écologiques qu'économiques. » Un enthousiasme partagé par Jennifer Chi, qui est arrivée au Luxembourg il y a 4 ans pour raisons professionnelles. « La gratuité, c'est une super initiative, se réjouit la Parisienne d'origine. En France, tu payes et en plus de ça, c'est sale et ça ne fonctionne pas toujours très bien. » Pour Merlin Gillard, doctorant spécialiste de la mobilité au centre de recherche luxembourgeois LISER, l'instauration de la gratuité des transports publics comprend de nombreux avantages, à commencer par la réduction des inégalités face à l'accès à la mobilité. Ça permet d'abolir une taxe, le prix du ticket qui n'était pas proportionnel au revenu, développe le spécialiste. Sans compter le fait que la gratuité a facilité l'utilisation des transports et leur fonctionnement et permis une plus grande flexibilité aux personnes qui font des trajets en chaîne, par exemple de leur lieu de travail à l'école des enfants, aux courses, et qui sont encore majoritairement des femmes. Largement plébiscité, cette gratuité a un coût financier important, estimé à 41 millions d'euros par an et amorti par l'impôt, de sorte à ce que les plus aisés financent cette transformation du service public. Une répartition que Jenny Chi estime légitime. On paye la gratuité via nos impôts, mais ça vaut le coup, se soutient-elle. Je n'ai jamais entendu personne s'en plaindre parce qu'il y a un vrai service derrière. Au-delà de la gratuité des transports publics, le Luxembourg s'est en effet engagé dans un important plan de financement de nouvelles infrastructures, notamment ferroviaires. À l'heure où de nombreuses villes européennes expérimentent la gratuité totale ou partielle de leur transport public, il est pourtant à ce stade encore impossible de dire si la gratuité au Luxembourg a eu un impact sur la fréquentation des transports publics, tient néanmoins à rappeler Merlin Gillard, ou même si elle a encouragé ou impacté le report modal de la voiture vers les transports publics. Surtout, le spécialiste soulève un problème majeur et largement ignoré des politiques de mobilité, celui de la place accordée à la voiture dans le pays. Il reste plus simple et plus rapide d'utiliser la voiture quand on en a une, regrette-t-il. Aucune mesure ambitieuse pour réduire l'attractivité de la voiture individuelle n'est prise, que ce soit en termes fiscaux, d'espace matériel accordé à la voiture dans les voiries, d'aménagement de territoire, de logement. Un constat partagé par Greenpeace, qui dans un rapport paru en mai dernier, s'inquiétait notamment que l'achat et l'utilisation de la voiture restent pour une partie de la population trop abordables, dans un contexte où le Luxembourg affichait en 2021 le deuxième taux de motorisation de l'Union européenne, avec 681 voitures particulières pour 1000 habitants d'après l'Institut européen Eurostat. Pour tenter d'inverser la tendance et d'attirer un plus grand nombre d'automobilistes vers les transports en commun, l'Organisation de défense de l'environnement a récemment fait différentes recommandations, parmi lesquelles rendre les voitures les plus polluantes plus chères à l'achat en introduisant une taxe de mise en circulation et un malus écologique important. Une mesure fiscale qui, aussi importante soit-elle, doit s'inscrire dans une réflexion plus large, assure Merlin Gillard. Le problème de ce genre de mesures est celui de beaucoup de politiques anti-voitures. Elles ne tiennent pas compte de leurs implications en termes d'inégalité sociale et spatiale et se fondent sur une vision individualiste de la mobilité, déplore le spécialiste. Plutôt que de réguler les comportements individuels par les prix, ça me semble plus important d'apporter des solutions vraiment structurelles. À titre d'exemple, Merlin Gaillard appelle notamment de ses voeux un changement radical de l'aménagement des routes et des villes pour y réduire l'espace dévolu à la voiture. Le doctorant recommande également d'arrêter de produire massivement des voitures, sauf par exemple pour de l'autopartage, et d'en faire la publicité. Cela s'inscrirait dans des politiques plus générales de décroissance ou de sobriété, souligne-t-il. Des réflexions qui résonnent bien au-delà des frontières du Luxembourg, notamment en France, où la gratuité totale s'applique actuellement au sein de 38 territoires, comme le détaille l'Observatoire des villes du transport gratuit, parmi lesquelles Dunkerque, Niort, Aubagne et bientôt Montpellier Méditerranée Métropole. A l'inverse, dans certaines grandes villes comme Paris, ces questions semblent pour l'heure loin d'être à l'heure du jour. Effectivement, on peut le confirmer. Alors, on va s'accorder une dernière pause musicale d'un titre tout à fait adapté, en tout cas il me semble. Et on se retrouve juste après. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. Voilà, c'était la femme anti-taxi. Prends le bus. Ah, les transports et les solutions collectives contre les solutions individuelles. C'est ce que nous portons. Allez, pour finir, en tout cas, le dernier quart d'heure qui nous reste, le tout petit quart d'heure, je voulais ouvrir la page agriculture avec... à l'occasion justement de ce convoi de l'eau dont on parlait tout à l'heure, la Confédération paysanne qui le 21 août a fait un communiqué, puisque en arrivant sur la commune de Coussay-les-Bois, elle a constaté qu'un jeune paysan, alors c'est ironique, hein, de 84 ans, porte depuis 2014 un projet de production de viande avec l'engraissement de 1200 taurillons exclusivement en bâtiment. Plusieurs recours en justice ont été portés par la commune de Coussay-les-Bois ainsi que plusieurs associations d'opposition, mais en vain. La Confédération paysanne dénonce cette méga-structure où les animaux sous-produits de l'activité énergétique prévue sur place n'auront pas accès au pâturage. Ce projet est l'archétype des dérives de l'agriculture industrielle perpétuée par des politiques agricoles bornées à servir le productivisme. Nous rappelons aussi l'impact important sur les milieux, notamment sur la qualité de l'eau, dans un territoire classé en SNIEF. La Confédération paysanne tient à rappeler l'importance de conserver et promouvoir l'élevage paysan, qui est une solution face aux enjeux actuels, notamment quant à la gestion de milieux sensibles et plus globalement de la ressource en eau. Et puis toujours sur la page agriculture, avec Génération Future, donc dans un communiqué du 24 août, qui revient sur une commission d'enquête sur les causes de l'incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale, ainsi que sur les conditions de l'exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire. Et donc cette commission d'enquête a été mise en place récemment. Elle aura pour but d'analyser en profondeur les raisons pour lesquelles la France n'a pas réussi à atteindre ses objectifs en matière de régulation et de réduction des impacts des pesticides. Voilà, donc c'est un groupement d'élus qui souhaite identifier les raisons de l'échec des plans éco-phyto, alors que Matignon donc prépare une troisième version qui devrait être présentée donc ce mois-ci du plan éco-phyto. La commission est présidée par un membre de la majorité présidentielle et plusieurs auditions ont déjà eu lieu, notamment Hervé Durand, ancien conseiller relance et exécution des réformes de Julien de Normandie, alors ministre de l'Agriculture. Ce dernier, donc ce conseiller, a déclaré « Il faut accepter de mettre de l'argent pour trouver des alternatives sérieuses aux pesticides », ajoutant « Réduire notre dépendance aux produits phytosanitaires, ce qui ne signifie pas les supprimer complètement, passe par des investissements significatifs dans la reconception des systèmes, le biocontrôle ou la génétique. On ne peut plus continuer comme avant quand chaque ravageur avait sa solution chimique. Pour protéger les cultures, il est nécessaire d'élargir la palette des solutions en se servant et non en luttant contre le vivant, a insisté le haut fonctionnaire, citant la diversification des cultures, les rotations longues ou encore les haies. Une position partagée par le directeur scientifique agriculture de l'INRAE, Christian Huyghe, lors de son audition par ces mêmes parlementaires. Pour réduire l'usage des pesticides, il faut passer à un système de régulation et non d'élimination des ravageurs, juge-t-il. La logique de régulation biologique permet d'utiliser moins de produits phytosanitaires en maintenant les bioagresseurs en dessous d'un seuil de nuisibilité, a expliqué donc ce directeur scientifique agriculture de l'INRA à la mi-juillet devant la commission. Cette démarche repose sur une extrême précision, donc ça nécessite des outils d'aide à la décision pointue et une vraie planification. Le représentant de l'INRA juge indispensable de soutenir les exploitants en revoyant l'ensemble des politiques d'accompagnement actuelles. Les travaux de la commission d'enquête doivent répondre donc cette semaine, début septembre, avec une audition donc de Génération Future prévue le 7 septembre dans le cadre d'une table ronde avec d'autres ONG. Le message que veut faire passer Génération Future, c'est que la commission doit... Alors, en 5 points, premièrement, pointer les lacunes dans la mise en œuvre des plans, les déficiences dans les politiques existantes, les obstacles rencontrés par les agriculteurs et autres parties prenantes, sachant que des travaux ont déjà été menés par des chercheurs de l'INRAE et qu'une analyse a déjà été faite par les inspections générales. Donc, il faudra en tirer les leçons. Je me permets un commentaire, c'est effectivement très important et c'est le parent pauvre des politiques publiques aussi en France, hein, c'est l'évaluation sincère. À chaque fois, il y a la tentation de repartir sur une page blanche en disant « bon, on n'y est pas arrivé, mais là, demain, les lendemains chanteront ». Non, c'est justement en décortiquant les mécanismes précisément qui ont conduit à l'échec que l'on peut arriver à retrouver des propositions qui soient autre chose que des grandes idées généreuses. Deuxième revendication, identifier les problèmes structurels, notamment liés à des faiblesses ou lacunes dans les lois et règlements existants et liés à des conflits d'intérêts, des contraintes budgétaires. Troisième point, évaluer les autorités et instances compétentes qui entravent la mise en place des objectifs de réduction et des changements de pratiques, tels que les chambres d'agriculture, coopératives notamment. En s'interrogeant sur la capacité des autorités à surveiller et faire respecter les réglementations ainsi qu'à fournir des orientations efficaces aux agriculteurs et autres acteurs concernés. Quatrième point donc, que va apporter Génération Future, proposer des réformes de fond visant à renforcer la réglementation favorable à la santé et l'environnement avec des systèmes agricoles plus durables. On voit que ça contredit ce qui a été dit au plus haut niveau de l'État dont on parlait au début, au tout début. Et enfin, dernière revendication, sensibiliser, former, éduquer l'ensemble des acteurs, les industries et le grand public aux risques associés aux pesticides ainsi qu'à l'importance de la transition vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Et voilà, on a un dernier article, je ne sais pas si on aura le temps, on va le prendre avec l'association Zéro Déchet France, Zéro Waste France. Communiqué du 31 août sur la planification écologique qui réagit au travail de planification écologique du gouvernement dont le volet consacré à l'économie circulaire commence à se dessiner avec des orientations qui constitueront la base de la prochaine stratégie nationale bas carbone, donc SNBC, pour la période 2025-2030. Donc Zero Waste France, l'association, fait le bilan et partage des recommandations. D'abord, elle s'interroge pour savoir où est la France en matière d'économie circulaire. Il est désormais évident que la France ne tient pas sa trajectoire de prévention des déchets, car trop peu de moyens ont été mis pour le faire, que ce soit par l'État, les collectivités ou les entreprises. Rappelons par exemple que la loi prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040, et que pour y parvenir, la trajectoire adoptée par décret pose comme jalon de réduire de 20% les emballages plastiques à usage unique d'ici 2025. Mais pour l'instant, c'est sans effet, puisque les quantités mises en marché ne diminuent pas. Au contraire, la consommation de plastique progresse alors qu'elle devrait baisser et ça a des conséquences dramatiques. Zero Waste France alerte régulièrement les pouvoirs publics, la loi AGEC est mise en œuvre trop lentement, les reculs et remises en question incessantes empêchent d'atteindre les objectifs fixés et le retard pris sera d'autant plus difficile à rattraper. Pour citer qu'un seul exemple, citons la vente des fruits et légumes sous emballage plastique, un lobbying effréné de l'industrie, un décret annulé, un nouveau décret contesté, des dizaines d'exemptions sont autant de ralentissements sur le chemin du mise en œuvre de la loi. Mais surtout, la loi AGEC n'est pas l'alpha et l'oméga de la transformation de l'économie française en économie circulaire, car de nombreux sujets restent à explorer. Des choix de société. Donc, à l'inverse de l'économie linéaire caractérisée par le tout jetable, il y a l'économie circulaire qui maintient le plus longtemps possible la valeur des produits, des matières et des ressources et réduit les déchets au maximum. L'économie circulaire ne consiste pas à améliorer le recyclage afin de continuer à surproduire à un rythme toujours plus grand des produits à usage unique qui rejoindront la poubelle. Cette voie-là n'est pas soutenable. Une étude des États-Unis récentes montrent que non seulement la promotion du recyclage n'a pas permis de changer les comportements des consommateurs de manière efficace, mais qu'en plus, elle a conduit à négliger la réduction et le réemploi, qui sont pourtant prioritaires dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Pour transformer l'économie française en une économie circulaire, il n'y a qu'un chemin possible, la sobriété en ressources et la fin de l'usage unique. Donc voilà, on peut traduire ça par la fin de la croissance. Pour l'association, c'est sur la sobriété que doivent porter l'essentiel des efforts plutôt que de gaspiller de l'argent et de l'énergie dans des innovations technologiques qui ne font que perpétuer un modèle gourmand en ressources et fortement émetteur de gaz à effet de serre. Parmi les innovations technologiques en matière d'économie circulaire, Zero Waste France questionne l'émergence récente de projets de recyclage chimique dont les procédés complexes et polluants auront un impact environnemental bien plus conséquent que le recyclage mécanique, ce qu'il convient de sérieusement évaluer. Quelle rentabilité environnementale de ces projets comparativement à une baisse de la production de produits en plastique à usage unique. Le recyclage, qu'il soit chimique ou mécanique, ne doit intervenir qu'après la mise en place de politiques de réduction et de réemploi conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets imposés par le droit européen et français, ainsi que la stratégie 3R de lutte contre les plastiques à usage unique adoptée en 2022. Si les projets de recyclage chimique en cours d'installation en France entendent servir l'économie circulaire en s'attaquant aux plastiques collectés que le recyclage mécanique n'est pas en mesure de traiter, Zero Waste France souligne que le passage à une économie circulaire nécessite avant tout de s'attaquer à la réduction de l'usage unique et a fortiori de plastiques qui ne sont pas recyclables. À l'inverse, l'économie circulaire repense notre consommation en privilégiant des produits éco-conçus, réparables et réemployables. C'est pas forcément un moins, mais c'est un autrement. Plus d'usage, plus de partage, moins de produits à usage unique ou à durée limitée, plus de réparation et de réemploi avec des secteurs économiques entiers à développer, pourvoyeurs d'emplois dans tous les territoires. Les emplois de l'économie circulaire sont les emplois de demain, ils doivent voir le jour sans tarder. L'économie circulaire se joue dès la conception d'un produit qui détermine 80% de son impact environnemental. L'économie circulaire signifie réduire de manière nette notre consommation de ressources. Le plastique est fait à plus de 98% de matières fossiles. Chaque usage créé de toutes pièces par l'industrie, mais qui correspond à aucun besoin réel, doit être remis en question. Chaque invention polluante et gaspilleuse d'énergie fossile doit être questionnée. L'une des dernières en date, les puffs, ces cigarettes électroniques jetables, déjà interdites chez nos voisins en Allemagne, en Belgique et en Irlande, et dont l'association demandait l'interdiction dès le mois d'avril. Pour l'association, une stratégie de planification écologique de l'économie circulaire devrait se concentrer sur deux axes principaux, l'application du principe pollueur-payeur et la planification de la réduction de la production de produits polluants à usage unique. Donc ça, ce sont les recommandations adressées. On pourra ajouter en tant que syndicaliste révolutionnaire qu'il faut évidemment arriver à reprendre la main sur les décisions en matière économique. C'est nous qui travaillons, alors c'est nous qui décidons. Et c'est ça l'objectif principal pour arriver à se sortir de ce marasme. Voilà, donc que dire d'autre, le fait que nous allons clore cette émission, que la prochaine aura lieu le premier lundi du mois d'octobre, c'est facile à retenir, à 18h. D'ici là, continuez à soutenir Radio Libertaire, financièrement, via son site, c'est bien connu, et surtout également, sans oublier la presse et les médias libres qui ne vivent pas de la publicité. Pensez vraiment à faire ce soutien parce que, encore une fois, il faut qu'on puisse garder la tête hors de l'eau et ce ne sont pas avec les médias dominants que nous arriverons à le faire. Voilà, c'est l'heure de la fin de l'émission. Restez à l'écoute de la plus rebelle des radios sur Radio Libertaire et on se retrouve le mois prochain. À bientôt. Bye bye. C'est original bagaille, c'est la vie à son boy. Check to the man, il peut pas attaquer. Trop beaucoup bombe nucléaire, veut dérouler dans la partie boy. C'est flip, flip, bad. Oh la la, oh la la, oh la la. Check to the man. Militant bis, je vote green, écolo. La nature, j'en suis agro. L'uranium, c'est pas bon pour l'homme. Le radium, pas tellement économe. Lève les bras, manifeste-toi, arrêtez-moi tout ça. Ne plus rien faire, ne plus se taire contre la raison d'État.
On dit mal, moi, quoi, mais dans un voile en
haut. Que dire, que faire? Nous voilà partis pour le nucléaire. En vérité, je vous le dis, on se fiche bien de notre avis. Pourquoi se taire? Faudra bien stopper le nucléaire. En vérité, je vous le dis, y'a moins dangereux comme énergie.
Oh là là, 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 l'homme. Détruire nous la nature, l'homme. Je veux faire errer, gâter nous l'atmosphère. Mon frère, mon sœur, il n'arrive les tiens, nos bombes nucléaires. Si ça continue comme ça, n'a pas qu'à pas respecter ton l'air. Mon Dieu, pas tiens, couillon, colitique, nous la nature. Pas toi, quand t'as vine, t'as vine, la poule, t'as vine, détruire, what's up?
Que dire, que faire? Nous voilà partis pour le nucléaire. Si je peux vous donner mon avis, faut militer pour l'écologie.
Bon, tu m'as ma commette en savoir l'enco.
Pourquoi se faire? Faudra bien stopper le nucléaire.
Bon, pour moi, c'est vite, c'est déjà non, bombe nucléaire.
Non, 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 tout cela n'est vraiment, vraiment pas marrant. Non, 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 on va se mordre les dents. Non, 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 il est temps de convaincre les gens. Non, 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 on va se foutre dedans. Il nous cache tellement de choses à propos des centrales. Silence complet, total, vous trouvez ça normal? Faut se bouger pour continuer dans les rues manifestées. Tout le monde ensemble pour la survie de l'humanité.
guerre avec le nucléaire. Contaminons-nous la peau, ce serait rigolo. On pourrait tous foutre en l'air avec le nucléaire. Contaminons-nous la peau, ce serait rigolo.
Non, 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 non.
Tout cela n'est vraiment, vraiment pas marrant.
Non, 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 non.
On va se mordre les dents.
Non, 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 non.
Il est temps de convaincre les gens.
Non, 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 non.
On va se foutre dedans. Il nous cache tellement de choses à propos des centrales. Silence complet, total. Vous trouvez ça normal? Faut se bouger pour continuer dans les rues manifester. Tout le monde ensemble pour la survie de l'humanité.
Original Blackaï occupe la place.
Mystique, nous échangerons.